VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, midi à Washington, 16h en temps universel. Le président sud-soudanais Salva Kiir a finalement signé aujourd'hui devant les dirigeants de la région un accord de paix déjà ratifié par les rebelles. Il a tout de même exprimé, d'après l'AFP, de sérieuses réserves sur plusieurs dispositions de cet accord qui visait à mettre fin à 20 mois de guerre civile au Soudan du Sud, au Tchad. Deux membres présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram, pourchassés par l'armée tchadienne sur le lac Tchad, se sont fait sauter en activant les explosifs qu'ils transportaient. L'explosion n'a pas fait d'autres victimes selon l'AFP qui cite des sources militaires. Les faits se sont déroulés hier sur l'île de Kega Ngouboua. Au Nigeria, deux kamikazes ont tué un soldat mardi soir à un poste de contrôle à Maiduguri, dans le nord-est du pays. C'est ce que rapportent des miliciens qui aident les forces armées à lutter contre les djihadistes. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a annoncé qu'elle cesserait en septembre de nourrir près de 7000 ex-rebelles congolais et étrangers. L'ONU manque de fonds, c'est au gouvernement de Kinshasa de prendre le relais. Plus d'explications, Michel Joseph.
6800, c'est le nombre de combattants que la MONUSCO nourrit, soit 2 millions de dollars par mois. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a le mérite d'être clair. L'hémorragie doit cesser. Son bureau est en train de négocier avec le gouvernement de Kinshasa pour arrêter les livraisons à partir du 15 septembre dans une partie des camps. Les autres camps suivront le 30 septembre. Il faut savoir que les ex-rebelles comptent également des femmes et des enfants. La MONUSCO gère un programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation des rebelles étrangers. La gestion des camps d'ex-combattants, congolais ou non, revient à la RDC et la MONUSCO apporte une aide alimentaire et logistique. La MONUSCO, une des plus grandes missions onusiennes au monde, avec quelque 20 000 hommes, est dotée d'un budget annuel de 1,4 milliard de dollars, n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir les ex-combattants.
Les Nations Unies ont indiqué aujourd'hui que les cas d'exploitation et d'abus sexuels commis par les casques bleus avaient sensiblement baissé en RDC, en République démocratique du Congo. Ces dernières années, les agressions recensées sont passées de 50 cas en 2009 à 13 en 2014, a déclaré le chef de la mission de l'ONU sur place, Martin Kobler, lors d'une conférence de presse. Depuis le début de cette année, la MONUSCO n'a enregistré que 8 cas, a-t-il ajouté. En février 2005, l'ONU avait interdit aux casques bleus d'avoir des relations avec des Congolais après la révélation d'abus sexuels sur des filles de 13 ans. Et rapatriement du casque bleu congolais de la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique, accusée de viol. C'est le ministre de la Défense de la RDC en personne qui l'a ramené hier à Kinshasa pour le confier à la justice militaire. On écoute Emile Ngoy Mukuna de retour de Bangui au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Moi, je déclare haut et fort que s'il y a un nouveau cas, je peux encore descendre moi-même sur le lieu. Mais sinon, nous avons déjà diligenté des enquêtes, même pour ce premier cas-là. Nous ne défendons pas des gens qui commettent des crimes. Sur cette question, nous sommes stricts et sévères.
Le ministre Emile Ngoy Mukuna de la RDC. Et le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a promulgué hier la loi sur la répartition des sièges nécessaires à l'organisation d'élections locales prévues en octobre et contestée par l'opposition. Par ailleurs, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, premier parti d'opposition en RDC, a accusé aujourd'hui les autorités d'avoir commandité l'agression d'un de ses hauts responsables détenus dans une prison du centre du pays, Bruno Kabachi, victime de brutalité dimanche à la prison centrale de Mbujimayi de la part d'autres prisonniers. Vous écoutez VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, les membres du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré et les députés de la dernière législature qui ont soutenu l'ancien régime exclus des prochaines élections par le Conseil constitutionnel sur la base du nouveau code électoral adopté par le CNT, le Parlement des transitions. Écoutons maintenant quelques réactions dans les rues de Ouagadougou, la capitale, au micro de notre correspondant Zoumana Onogo.
Madame Sebogo, Marilyn, pour moi le droit a été dit. Je pense que les partis concernés doivent prendre acte. Je pense qu'eux aussi n'ont qu'à se remettre en cause. En 2020, ils vont revenir. 5 ans de groupe.
Benao Batien, journaliste de Radio Rurale à la retraite. Il aurait été mieux de laisser tout le monde aller vers les électeurs et permettre aux électeurs de faire leur choix. Les gens ont énormément compris, les gens ont été formés. Donc, le choix doit revenir à ces gens. Moi, je crois que c'était la chose la plus simple. Ils vont dire, voilà, si j'étais parti, j'aurais gagné. Alors, s'ils partaient, ils allaient jouer.
Zongo Lucien, à Ouagadougou. Pour moi, concernant les résultats tant entendus là, c'est hier, c'est rien à signaler. N'attendez que ça. Pour être soulagé, un temps soit peu. Rien à signaler parce que c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé de mettre hors jeu certaines personnes. C'est comme un match de football. Si ta licence n'est pas bonne, dehors, out.
Je suis un citoyen du Burkina. Je m'appelle Tafsoba Idrissa. Ouais, on est content de cette décision du Conseil. Ça nous paraît très rassurant. On est content. Ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37 ne doivent pas normalement se présenter aux élections. 2015.
Souleymane Ilboudo de Ouagadougou. Vraiment, je suis content de la décision du Conseil conditionnel parce que ceux qui ont participé pour la modification de l'article 37, soublaise qu'on parlait, on ne peut pas aller les laisser aller aux élections de 2015. Tout simplement parce qu'il y a eu des gens qui sont morts à cause d'eux. C'est-à-dire, en fait, c'est une collection. Ce n'est pas une exclusion, c'est une collection.
Monsieur Ramdé Sekou, je pense que la décision du Conseil constitutionnel est salutaire parce que cette décision-là rencontre l'assentiment de beaucoup de la population. Voilà. Et nous, nous nous retrouvons dans cette décision car le droit a été dit.
Micro-trottoir dans les rues de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, après l'exclusion des membres du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré et des députés de la dernière législature des prochaines élections dans ce pays. Ce micro-trottoir a été réalisé par notre correspondant sur place, Zoumana Onogo, et toujours au Burkina, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel. Le CDP et ses alliés ont annoncé aujourd'hui leur refus d'aller aux élections et appellent donc à la désobéissance civile. Toujours au Burkina, un gendarme burkinabé blessé dimanche après une attaque par des inconnus d'une caserne dans le nord du pays, frontalier du Niger et du Mali, est décédé dans un hôpital à Ouagadougou lundi. Un témoin a indiqué que les assaillants parlaient la langue peul et disaient rechercher des chrétiens et non des musulmans, tout en se réclamant de Boko Haram, la secte islamique basée au Nigeria, qui s'est ralliée au groupe État islamique à Ouagadougou. Il est 16h07.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, un reporter, une reporter et un caméraman d'une chaîne de télévision locale en Virginie, dans l'est des États-Unis, ont été abattus lors d'un direct ce matin selon les médias. La police recherchait activement le tireur sur les images filmées par le caméraman. Avant d'être tué, on entend d'abord des coups de feu. La caméra tombe ensuite au sol et filme les jambes du tireur qui abat hors champ la journaliste dont on entend seulement les cris. Les victimes ont été identifiées par le directeur général de la chaîne, Jeffrey Marks, comme étant Alice Parker et Adam Ward. La Nouvelle-Orléans marquera le 29 août le 10e anniversaire de l'ouragan Katrina et des inondations catastrophiques qui ont dévasté la métropole de la Louisiane en 2005. Un désastre qui a fait près de 2000 morts dans les régions affectées du sud du pays, la plupart à la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, la ville est mieux protégée, le génie militaire américain ayant construit des digues plus solides à la place de celles dont la rupture avait envoyé des trombes d'eau dans les rues et les maisons de la ville. Ayoub El Kazani, le jeune Marocain qui a ouvert le feu dans un train Thalys Amsterdam, Paris, a été inculpé en France pour une attaque préméditée qui aurait pu déboucher sur un carnage. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat. On termine en Syrie. 5 personnes ont été tuées et 30 autres blessées aujourd'hui par une roquette qui s'est abattue sur une station-service à Homs, ville sous contrôle gouvernemental dans le centre de la Syrie, rapporte l'agence officielle Sanaa. La roquette est tombée au moment où un camion-citerne déchargeait sa cargaison, le faisant exploser. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé que 5 personnes ont été tuées par une explosion dans une zone où se trouve une station-service à Incha. Le bilan va s'alourdir en raison du grand nombre de blessés, selon l'OHD. Les forces du régime contrôlent la majorité de la ville de Homs, en dehors du quartier de Waer et une grande partie de la province éponyme, à l'exception des villes de Rastan et de Talbissé, assiégées, et de Palmy, qui est aux mains du groupe djihadiste État islamique. Et puis en athlétisme, c'est le Kenyan Julius Yego qui est sacré champion du monde du javelot. C'est une première pour un Africain noir dans l'histoire, avec un troisième jet à 92,5 60 mètres. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans 50 minutes sur la même station.